Cette nuit-là, nous campâmes sur la rive d'une contrée verte et luxuriante. Autour de leur feu, les hommes étaient tendus et silencieux, muselés par l'anxiété. J'entendais leurs murmures, le vin qui se renversait à moitié à mesure qu'il circulait. Personne n'avait envie de rester éveillé en imaginant le lendemain. Bien que Dédale m'ait assigné un petit espace avec un couchage, je l'abandonnais. Je ne supportais pas l'idée de rester confiné avec tous ces corps à la respiration angoissée. Fouler un sol autre que le mien était étrange. Là où j'attendais un bosquet, je trouvais un fourré à daims. Là où je pensais rencontrer des cochons, un blaireau montra les dents. Le terrain était plus plat que celui de mon île, les forêts basses, les fleurs se combinaient différemment. Je vis un amandier à fruits amers, un cerisier en fleurs. Mes doigts brûlaient de récolter leur puissant pouvoir. Je me penchai pour cueillir un coquelicot, juste pour tenir sa couleur entre mes mains. Je sentis ses graines noires vibrer. « Allez, transforme-nous en magie !» Je n'obéis pas. Je pensais à Scylla, tentant de me la représenter d'après ce que j'avais entendu à son sujet. 6 têtes, 6 gueules, 12 pieds pendants. Mais plus j'essayais, plus cette image m'échappait. À la place, je revoyais son visage tel qu'il avait été dans les salles du palais, rond et rieur. La courbe de son poignet ressemblait alors au cou d'un cygne. Son menton s'inclinait délicatement quand elle chuchotait un ragot quelconque à l'oreille de ma sœur. À côté d'elle, Persès était assis avec son sourire méprisant. Il avait l'habitude de jouer avec les cheveux de Scylla, de les enrouler autour de son doigt. Elle se retournait pour lui donner une tape sur l'épaule, et ce bruit résonnait à travers toute la pièce. Ils riaient à l'unisson, car ils aimaient se trouver au centre de l'attention. Et je me souviens de m'être demandé pourquoi Pasiphaé n'était pas dérangée par de telles manifestations d'affection, elle qui ne tolérait personne à proximité de Persès à part elle-même. Et malgré tout, elle se contentait de les regarder en souriant. Alors que j'avais cru avoir été aussi myope qu'une taupe durant toutes ces années chez mon père, de nouveaux détails me revinrent en mémoire. La robe verte que Scylla portait généralement aux banquets les plus importants, ses sandales argentées aux lanières incrustées de lapis lazuli. Il y avait une épingle en or dont l'extrémité était en forme de chat, avec laquelle elle relevait ses cheveux au-dessus de sa nuque. Elle l'avait eue à Thèbes, je crois. Thèbes, en Égypte, d'un admirateur qu'elle avait là-bas, un quelconque dieu à tête d'animal. Qu'était-il advenu de cette babiole? Se trouvait-elle encore sur l'herbe à côté de l'eau, avec ses vêtements abandonnés? J'étais arrivée à une petite butte surmontée d'un bouquet de peupliers noirs. Je marchais au milieu de leurs troncs ridés. L'un d'entre eux avait récemment été frappé par la foudre et son fût arborait une blessure carbonisée et suintante. Je posai mon doigt sur la sève brûlée. Je sentis sa force et regrettai de ne pas avoir apporté une fiole supplémentaire pour la recueillir. Cela me fit penser à Dédale, cet homme au dos si droit qui avait du feu dans les veines. Quelle était donc cette chose qu'il refusait d'abandonner? Lorsqu'il en avait parlé, il avait pris un air prudent, calculant ses mots avec la même précision que s'il carrelait une fontaine. « C'est forcément un amant, me dis-je. Une jolie servante du palais, ou un beau jeune homme. » Ma sœur reniflait ce genre d'intrigue à 1 kilomètre. Peut-être leur avait-elle même ordonné de se glisser dans son lit pour jouer le rôle d'appât et ferrer le poisson. Mais quand j'essayais de me les représenter, je n'y crus pas. Dédale ne ressemblait pas à un homme tombé éperdument amoureux depuis peu, pas plus qu'à un amant de longue date avec une femme installée à ses côtés depuis de nombreuses années. Je ne parvenais pas à l'imaginer en couple. De l'or, sinon? Ou une invention quelconque? Je pensais, si je parviens à le garder en vie demain, peut-être que je l'apprendrai. La lune poursuivait sa course au-dessus de ma tête à mesure que la nuit s'écoulait. La voix de Dédale résonna de nouveau dans mes oreilles. Elle a des dents aussi longues que des jambes. Une peur glacée m'envahit. Qu'avais-je imaginé? Pouvoir tenir tête à une créature pareille? Dédale aurait la gorge arrachée, ma propre chair serait happée par les gueules de Scylla. Que deviendrais-je une fois qu'elle en aurait terminé avec moi? Des cendres, de la fumée, des eaux immortelles traînées au fond de la mer. Mes pieds avaient trouvé la grève. Je parcourus son sol froid et gris. J'écoutais le murmure des vagues, les cris des oiseaux de nuit, mais pour être honnête, je tendais l'oreille en attendant davantage. Ce rapide appel d'air qui m'était devenu familier. À chaque seconde, j'espérais voir Hermès atterrir sur ses pieds devant moi, riant, provocateur. « Alors, sorcière des Ea, que vas-tu faire demain ?» Je songeais à le supplier de m'aider, à genoux sur le sable, paume tendue vers lui. Ou peut-être le renverserais-je par terre et le satisferais-je ainsi, car il aimait par-dessus tout être surpris. Elle était tellement désespérée qu'elle s'est jetée sur moi comme un fauve. « Il devrait coucher avec ma sœur, pensais-je. Il se plairait. Pour la première fois, il me vint à l'esprit que c'était peut-être déjà arrivé. Peut-être le faisait-il souvent en se moquant de ma bêtise. Peut-être que tout cela avait été son idée et que c'était pour cette raison qu'il était venu ce matin, pour se moquer de moi et jubiler. Je me repassais mentalement notre conversation, à la recherche d'une signification cachée. Vous voyez à quelle vitesse il ridiculisait les autres ? C'était ce qu'il désirait par-dessus tout. Les faire douter, s'arranger pour qu'ils se posent des questions et s'inquiètent, suivant son pas dansant en trébuchant. Je m'adressais aux ténèbres, à toutes les ailes silencieuses qui y planaient peut-être. « Ça m'est égal que tu couches avec elle. Prends Persès aussi, c'est lui le plus beau. Tu ne seras jamais quelqu'un qui me rendra jalouse. » Peut-être écoutait-il, peut-être que non. Qu'importe, il ne m'aiderait pas de toute façon. C'était bien plus drôle de voir jusqu'à quelle extrémité j'allais me risquer, de me voir jurer et me débattre. Mon père ne m'aiderait pas non plus. Éventuellement à Étès, même si ce n'était que pour ressentir l'étendue de son pouvoir. Mais il se trouvait à 1000 lieues d'ici, et il m'était aussi impossible de l'atteindre que de me mettre à voler. « Je suis encore plus pitoyable que ma sœur, songeai-je. Je vais l'aider alors qu'il n'y a personne pour me venir en aide à moi. » Cette pensée me réconforta. Après tout, j'avais été seule toute ma vie. Aétès et Glaucos avaient constitué les seules pauses dans la longue étendue de ma solitude. Je m'agenouillai, plongeai ma main dans le sable. Je sentis le frottement de ses grains sous mes ongles. Un souvenir me submergea. Mon père énonçant notre ancienne loi désespérante à Glaucos, « Aucun dieu ne peut défaire ce qu'un autre a fait. » Sauf que cet autre, c'était moi. La lune continua sa course au-dessus de nous. Les vagues pressèrent leurs bouches froides sur mes pieds. De l'aulné, pensais-je, du frêne, de l'olivier et du pin argenté. De la jusquiame avec de l'écorce de cornouiller brûlée et à la base de ce mélange, du molly. Le molly, pour briser un sort, éloigner cette pensée maléfique que j'avais eue et qui avait transformé Scylla. Je me levai en secouant le sable, ma sacoche de simple accrochée à mon épaule. Tandis que je marchais, les fioles s'entrechoquèrent avec un petit chuintement, pareil à des chèvres qui agitent leurs cloches. Leurs odeurs m'enveloppèrent, aussi familières que celles de ma propre peau, terre et racines collantes, sel et sang ferrugineux. Le lendemain matin, les hommes étaient silencieux, le teint gris. L'un d'eux graissait les dames de nage pour les empêcher de grincer, un autre décapait le pont taché, le visage cramoisi de soleil ou de chagrin, je n'aurais su le dire. Un troisième marin à barbe noire se tenait près de la poupe, priant en versant du vin dans les vagues. Aucun d'entre eux ne me regarda. Après tout, j'étais la sœur de Pasiphaé, et il y avait longtemps qu'ils avaient perdu espoir de recevoir son aide. Je sentais tout de même leur tension peser lourdement dans l'atmosphère, une terreur asphyxiante monter en eux, minute après minute. La mort approchait. « N'y pense pas, » me réprimandai-je intérieurement. « Si tu tiens bon, personne ne mourra aujourd'hui. » Le chef des gardes avait des yeux jaunes perdus dans un visage gonflé. Il s'appelait Polydamas, et il était grand. Mais comme j'étais une déesse, nous mesurions la même taille. « J'ai besoin de ta cape, » lui annonçai-je, « et de ta tunique, tout de suite. » Ses paupières se plissèrent, et j'y lus un nom de pur réflexe. je finirais par bien connaître ce type d'homme, jaloux de son maigre pouvoir, pour qui je n'étais qu'une femme.
Pourquoi ?
Parce que je ne souhaite pas la mort de tes camarades.
Et toi ?
Mes paroles résonnèrent sur le pont, et 37 paires d'yeux se braquèrent sur nous. Il enleva ses vêtements, puis me les tendit. C'étaient les plus beaux de tout l'équipage, tissés dans une extravagante laine blanche peignée, ourlée de violet sombre, effleurant le pont. Des dalles s'étaient postées près de moi. « Je peux t'aider ?» Je lui donnai la cape à tenir. Cachée derrière, je me dévêtis pour enfiler la tunique. Les manches étaient trop larges et la taille bâillait. Une odeur aigre de chair humaine m'enveloppa. « Peux-tu m'aider à mettre la cape ?» Dédale la drapa sur mes épaules, la fixant grâce à une broche dorée en forme de poulpe. L'étoffe pendouillait, lâche et glissant sur mes épaules, aussi lourde que celle d'une couverture.
« Désolé de te le dire, mais tu ne ressembles pas beaucoup à un homme. »
« Je ne suis pas censée ressembler à un homme. Je suis censée ressembler à mon frère. Scylla l'a aimé autrefois, et peut-être qu'elle l'aime encore. » J'appliquai sur mes lèvres la potion que j'avais préparée, à base de hyacinthe et de miel, ainsi que de fleurs de frêne et d'aconite écrasées avec de l'écorce d'amande. J'avais déjà jeté des sorts d'illusion sur des animaux et des plantes auparavant, mais jamais sur moi-même, et je fus soudain envahie d'un doute vertigineux. Je me forçais à réprimer ces pensées. La peur de l'échec était la pire des choses pour un sort. À la place, je me concentrais sur Persès. Son expression paresseuse et suffisante, ses muscles gonflés et son cou épais, ses mains indolentes aux longs doigts. J'invoquai tour à tour chacun de ses traits, rassemblant toute ma volonté pour qu'il s'incarne en moi. Lorsque je rouvris les yeux, Dédale me regardait avec intensité.
« Mets les hommes les plus fiables aux rames !»
lui ordonnai-je. Ma voix aussi avait changé, désormais grave et enflée de hauteur divine. C'était celle de mon frère.
« Ils ne doivent s'arrêter sous aucun prétexte, quoi qu'il arrive !»
Il acquiesça. Il tenait une épée, et je vis que les autres marins étaient également armés de lances, de poignards et de grossières massues.
« Non !» dis-je en élevant la voix pour être entendu de tous. « Elle est immortelle. Les armes ne servent à rien et vous aurez besoin de garder les mains libres pour faire avancer le bateau. »
Le son râpeux des lames rentrant dans leur fourreau et le bruit sourd des lances qu'on repose se firent immédiatement entendre. Même Polydamas, vêtu de sa tunique d'emprunt, avait obéi. J'avais presque envie de rire. Jamais de ma vie on ne m'avait manifesté une telle déférence. Était-ce l'effet que cela faisait d'être Persès ? Néanmoins, je distinguais déjà le contour vague du détroit qui se profilait sur la mer, à l'horizon. Je me tournai vers Dédale. « Écoute, il y a une chance qu'elle ne soit pas dupe du sort et qu'elle me reconnaisse. Si c'est le cas, débrouille-toi pour ne pas être trop près, pour qu'aucun des hommes ne soit trop près. »